Bonjour à tous, je suis Mélissa, toujours accompagnée de Charline.
Et salut tout le monde.
On se retrouve pour un nouvel épisode des Jeunes Times sur Bac FM. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'histoire des triades chinoises ainsi qu'à leur rôle majeur sur le monde. Nous avons choisi ce sujet car il est méconnu, mais vous allez comprendre que les triades sont pourtant omniprésentes. Alors pour commencer, Charline, est-ce que tu pourrais nous présenter un fait d'actualité sur ce sujet ?
Oui, bien sûr. Du coup, pour ne pas vous perdre, je vais commencer par définir ce qu'est une triade. Ce sont des organisations secrètes à caractère criminel, mais ce sont aussi des sociétés plus ou moins secrètes qui interviennent politiquement. Les activités des triades mafieuses sont diverses. Ça peut être des organisations qui font du blanchiment d'argent, de la contrefaçon de marques et qui participent à des jeux d'argent. Il y a aussi de la piraterie maritime, notamment avec l'opium qu'on développera un petit peu plus tard. Elles sont implantées à l'échelle internationale et elles suivent le tracé des routes de la soie.
Et pour ceux qui ne le savent pas, les routes de la soie sont des tracés maritimes utilisés pour transporter de nombreuses marchandises depuis plusieurs siècles. Donc elles relient l'Europe à la Chine et elles ont été renommées les nouvelles routes de la soie lors de l'annonce du rêve chinois par l'actuel président chinois Xi Jinping en 2012.
Oui, c'est exactement ça. Il est vrai que les triades d'aujourd'hui sont principalement motivées par des raisons économiques et que si on leur en donne la possibilité, elles s'intéressent à toute offre illicite ou non qui leur permettrait de réaliser des bénéfices. En échange, elles prendront toutes les mesures nécessaires pour protéger le client, ce qui a parfois conduit à de graves conflits et à des meurtres brutaux. Nous pouvons le montrer à travers des intimidations politiques dans le cadre d'une campagne organisée pour réduire au silence les personnalités les plus influentes des médias. En mai, le directeur de Human Rights Monitor à Hong Kong a affirmé dans les médias que le ministère chinois de la Sécurité et des Affaires intérieures avec les triades locales était derrière les intimidations perpétrées contre les animateurs de radio Albert Cheng King-hoon et Alan Li Pengfei. Désolée pour la prononciation. Albert Cheng était l'animateur influent de l'émission controversée de la radio commerciale Teacup in a Storm. Elle examinait les problèmes affectant les citoyens de Hong Kong et adressait souvent des critiques au gouvernement de Hong Kong ou aux autorités de la Chine continentale. Cheng a quitté l'émission après avoir déclaré qu'il se sentait étouffé par la dépression politique.
Mais du coup, je te coupe. Oui, l'émission ne l'a pas remplacé ?
Si. Après, il va être remplacé par Alan Li Pengfei, qui est également parti après un peu plus d'une semaine, déclarant qu'il ne pouvait plus s'exprimer librement. Bon, les détails exacts restent un petit peu flous et les animateurs de l'émission ont hésité à fournir des détails sur les intimidations aux autorités, mais des sources consultées par la presse indiquent qu'un homme d'affaires du premier plan du secteur de divertissement, ayant de nombreuses connexions avec les triades, a proféré des menaces sérieuses et crédibles contre les animateurs. L'homme d'affaires était apparemment un envoyé du gouvernement de la Chine continentale, qui n'était pas satisfait du contenu des programmes des animateurs.
Merci pour ces informations. Alors, je te propose de continuer sur cette lancée en discutant de la fondation des triades. Donc, de ma part, j'ai appris que la première triade a été fondée par des moines bouddhistes qui, par leur maîtrise du Kung Fu, a permis au premier empereur Manchu de remporter la victoire en 1662. Cependant, après celle-ci, les religieux du monastère Shaolin ont été persécutés et même massacrés jusqu'à incendier leur monastère. Donc, c'est dans ce contexte qu'ils se sont révoltés contre la dynastie Manchu des Qing afin de restaurer les Ming.
Oui, c'est exact. Après le départ des Mandchous et l'établissement d'une république en 1912, les triades se sont rapidement transformées du statut d'activistes politiques en bandes criminelles. Suite à un traité entre la Chine et les Britanniques, les Anglais vont se voir commercialiser de l'opium à grande échelle, ce qui a permis aux sociétés secrètes de créer un trafic autour de cette drogue. Par exemple, en 1927, à Shanghai, Du Les Grandes Oreilles, qui est le dirigeant de Bande Verte, va diriger ce trafic au sein de cette capitale. Il représente aujourd'hui un modèle pour les nouvelles triades.
Ah oui, c'est vrai. J'ai vu dans le documentaire d'Arte que la clope, un des membres de Bambou Uni, qui est une triade implantée
un peu bizarre,
à Taïwan, était fan de sa manière de diriger, mais qu'il explique que ce n'est plus possible aujourd'hui, car il faut être beaucoup plus discret et prudent. En gros, par exemple, en 1927, il y a eu une révolution de la part des ouvriers qui était guidée par le communisme, qui concerne leurs conditions déplorables de travail. C'est alors que Chiang Kai-shek, le président chinois, trouve de l'aide auprès d'Où les Grandes Oreilles, afin qu'il puisse calmer la situation. Donc, cependant, le 12 avril, ce sont 5000 ouvriers qui sont massacrés par les membres de la triade, en plus des forces de l'armée nationale.
Ah oui, j'ai entendu ça. Et c'est après, je crois, que la Taïwan s'est formée, non ?
Bah, pas encore. Avant, il y a eu une autre révolution des agriculteurs, cette fois-ci, mais toujours guidée par les communistes, avec Mao Zedong. Et c'est une victoire, étant donné qu'en 1949, c'est la République populaire de Chine qui est déclarée. Et c'est là que 2 millions de partisans de l'ex-président se sont enfuis en direction de Taïwan, accompagnés de la triade La Bande Verte, dirigée par tous les grandes oreilles.
Ok, et aussi j'ai vu que de nombreuses triades se sont également enfuies à Hong Kong, et c'est dans ce cas qu'il y a deux autres triades qui se sont formées, la 14K et la Sun Yat-sen. La 14K est dirigée par un général anticommuniste de Pékin, et la Sun Yat-sen a pour dirigeant une riche famille dont Dragon à quatre yeux, et son beau-frère Charles Hung, dont on parlera un petit peu plus tard. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque Hong Kong a été colonisé par les Britanniques, très vite, ces derniers se sont sentis submergés par la force des triades et donc va abandonner la population à leurs dépens.
Donc là, on a posé les bases de la fondation des triades, qui pour rappel sont la Bande Verte qui va devenir Bamboo Uni au sein de Taïwan, et la 14K avec la Sun Yat-sen au sein de Hong Kong. Mais il faut aussi prendre en compte la plus grande triade aujourd'hui, l'Alliance Céleste, dirigée par le surnom donné à ce dirigeant, le Tyran de Fer, et qui a une histoire un peu plus particulière que les autres. En gros, elle s'est formée en prison à partir de plusieurs gangs isolés qui ont été arrêtés à la place de leur chef. Ces derniers se sont alliés, dégoûtés de constater que ce sont toujours les petits pris en flagrant délit, mais jamais les haut placés. Maintenant, nous allons voir l'ampleur de leur impact selon les différentes localisations où elles se sont implantées. Donc, vu l'ampleur de ces organisations, il est sûr qu'il y a eu beaucoup d'actes illégaux et surtout des crimes bien plus graves, comme des meurtres ou, comme dit précédemment, des trafics de drogue. Mais concrètement, on peut distinguer deux enjeux pour ces triades. L'un est basé sur une soif avide de l'argent qui pousse les triades à des activités criminelles, et l'autre sur une soif de pouvoir qui se voit à travers l'influence politique qu'exercent les triades.
Alors moi, je vais vous expliquer le besoin accru d'argent par rapport aux triades. Alors pour pouvoir satisfaire leurs besoins accrus d'argent, les triades vont se lancer dans toutes sortes d'activités criminelles. Au XIXe siècle, les premières triades vont commencer leur oppression par le contrôle d'associations ethniques et syndicales locales pour avoir un premier pouvoir sur des migrants vulnérables et sans repère. Mais ils ne vont pas s'arrêter là, car en effet, leurs crimes vont aller crescendo. C'est-à-dire qu'ils vont aller du moins pire au plus hard. Il va y avoir des extorsions dans le commerce de colis, et bien plus de vols encore. Plus tard, après la Seconde Guerre mondiale, les triades vont continuer à exceller dans le monde du crime et vont être impliquées dans de nombreuses activités, comme les vols organisés, les cambriolages, la prostitution et surtout l'exploitation de drogue. Nous avons en particulier l'opium, et plus tard l'héroïne. Et finalement, il y aura aussi le fentanyl qui est 100 fois plus puissant que son précédent, ce qui va provoquer une crise sanitaire au Canada liée au nombre de morts élevé. On voit le lien entre la Chine qui fabrique les composants et les triades qui les transforment. Mais il faut noter que chaque triade a sa spécialité. Par exemple, la 14K, pour en mettre en contexte, elle va être formée après la Seconde Guerre mondiale et la guerre civile chinoise par les nationalistes fuyant le communisme. Elle compte 20 000 membres actifs avec une organisation et une gestion solide. Alors eux, ils vont être impliqués dans l'extorsion de boîtes de nuit, la production et la vente de produits contrefaits ainsi que l'ingérence dans les ventes de biens immobiliers. Ils vont aussi être très présents dans l'industrie des casinos à Macao. Ils vont aussi être impliqués dans du trafic d'humains en arnaquant des personnes pour les attirer au Cambodge, ce qui les mènera à être exploités physiquement et mentalement avec 12 heures de travail forcé et des sanctions sont envisagées s'il y a toutes sortes de rébellions. Alors pour la Sun Yat-sen, le groupe le plus puissant de Hong Kong, elle compte 25 000 membres et 56 000 dans le monde en tout. Et eux vont être dans le trafic de drogue, le blanchiment d'argent, le piratage de logiciels informatiques, le trafic de migrants et la fraude à la carte de crédit. Ils vont aussi agir en tant que mercenaires, c'est-à-dire que si des personnes payent pour leurs services, ils vont bien sûr les réaliser sans poser de questions. La Wong Ching Hun est un groupe triadique avec la plus longue histoire à Hong Kong qui compte maintenant 20 000 membres. Cette triade va être plus spécialisée dans des jeux de hasard illégaux, des activités de contrefaçon, des extorsions générales, comme la contrebande de cigarettes, et vol de voitures et trafic de drogue. Et bien sûr, on peut imaginer que grâce à toutes ces activités, ces membres vont engendrer des millions et des millions d'argent.
Mais j'étais juste en train de me poser la question aussi.
Ouais, vas-y.
Quand tu as dit la 14K, ils font du trafic d'humains.
Ouais.
Par exemple, ils attirent des personnes au Cambodge pour du travail forcé. Et est-ce qu'il y a toujours des personnes qui y sont actuellement ?
Oui, c'est d'actualité.
Ok. Et il n'y a personne qui fait ça, du coup. Enfin, comment ils peuvent continuer à faire ça sans être arrêtés ?
Eh bien, justement, je vais répondre maintenant. Les triades vont infiltrer et corrompre la police et divers services gouvernementaux à Hong Kong vers le 19e siècle, et cela va être renforcé au fil des années car, selon un compte rendu, plus d'un tiers des forces de l'ordre de Hong Kong étaient affiliées aux triades vers le 20e siècle. Mais maintenant, c'est plus trop d'actualité, les forces de l'ordre combattent la corruption maintenant et du coup, il y a beaucoup moins de policiers infiltrés dans ce genre de gang. Aussi, après la Seconde Guerre mondiale, la police était débordée et désorganisée face à la montée exponentielle de toutes ces triades, ce qui a permis à ces organisations de pouvoir mener leurs activités en toute tranquillité, quoi.
Ok.
Mais du coup, dis-moi à ton tour, quels sont les effets sur la politique des activités illicites des triades ?
Alors, chaque triade véhicule des croyances pour enrôler les jeunes et les soumettre ensuite à un serment. En fait, au début, un repenti taïwanais de Bambou Uni, dans le documentaire d'Arte, raconte que ce qui intéresse les jeunes, c'est la richesse et la puissance du parrain qui nous est présenté comme un gourou. Mais au-delà d'un enrôlement de la jeunesse, les triades s'intéressent aux activités politiques et économiques. Concernant le territoire taïwanais, nous savons que c'est le début d'une dictature lorsque Chiang Kai-shek débarque, ce qui signifie qu'il a fallu attendre des années avant que l'île Formose, donc l'île de Taïwan, soit une démocratie. Et en gros, les triades y ont joué un rôle majeur. Par exemple, lorsque Lou Blanc, donc le chef de Bambou Uni, était aux États-Unis afin de répondre à sa triade au sein des diasporas, notamment en 1984 à San Francisco, il a été arrêté à tort cette fois-ci pour avoir tué sur le sol américain Henry Liu. Donc c'était un opposant à la dictature taïwanaise. Le problème est que ce sont les services secrets de Taïwan qui ont engagé le tueur à gages et non Lou Blanc, donc il s'est défendu en révélant un enregistrement de la conversation entre les services secrets qui demandent de tuer Henry Liu et malheureusement, en fait, on va voir que Lou Blanc, il va le regretter plus tard.
Pourtant, il a pu éviter de faire la prison, non ?
Bah oui, mais ce qu'il n'avait pas pensé, c'est que cette révélation allait déclencher chez la population une révolution contre le régime. Et si celui-ci tombe, alors la triade aussi, puisqu'ils sont à la base complices. Donc quand il est rentré aux États-Unis en 2016, il a essayé de rattraper le coup en contrant son adversaire politique Tsai Ing-wen. Mais comme on le sait aujourd'hui, il n'a pas réussi puisqu'elle est devenue pendant 8 ans la présidente de Taïwan jusqu'en mai 2024.
Est-ce qu'il était énervé ou il a fait quelque chose de grave pour, à cause de ça ?
Non. Quand tu le vois dans le documentaire d'Arte, il n'est pas du tout violent.
Il ne veut pas se venger.
Dans le sens où il ne va pas montrer une violence, il a quand même un certain tempérament assez calme. Il ne va pas montrer. Ça reste un chef, tu vois.
Oui.
Ils vont pas. C'est pas. Voilà. Mais par contre, tu vois le repenti taïwanais dont je t'ai parlé juste avant. Alors lui, il est devenu youtubeur. Et en gros, il parlait des médias chinois. Il critiquait ouvertement la Chine et à un moment donné, le Lou Blanc, on va le voir plus tard, qu'il est allié avec le Parti communiste chinois. Et du coup, il a, selon le repenti taïwanais, il se serait fait attaquer sous ordre de Lou Blanc.
J'ai eu très peur. Je me suis vu mourir. J'ai pris 3 balles. C'est un mafieux de Bambou Uni qui m'a tiré dessus. Ce mec, j'aurais pu le tuer. Quant au vrai commanditaire de cette tentative de meurtre, j'espère que la police arrivera à le coincer. Un jour, j'ai dénoncé le fait qu'il roule pour le Parti communiste chinois.
Holger soupçonne le chef historique de Bambou Uni, son ancienne triade, d'avoir voulu le faire taire.
Je n'ai absolument rien à voir avec le fait qu'Holger Chen se soit fait tirer dessus. Il ne mérite même pas que je le tue.
Et tu vois, en gros, on voit que Lou Blanc, il va pas faire de la vengeance par lui-même, en fait.
Oui, oui, ça reste, il va toujours embaucher des gens, quoi.
Exactement, tu vois, tu pourras jamais avoir ces personnes-là dans des prisons, oui, quoi. C'est toujours les petits, en fait, qui sont mis en prison. Et c'est d'ailleurs pour ça que Alliance Céleste s'est créée, en fait. Et du coup, un autre exemple d'une façon d'influencer la politique est par le cinéma. La 14K immigre à Macao, donc c'est une colonie portugaise qui connaît une économie florissante dans le domaine des casinos. Et Dan Cassé, le chef de la 14K, souhaite faire son biopic et réalise son premier film en 1998, qui s'intitule Casino. Cependant, une scène sur un pont lui a été refusée, alors il décide de faire une contre-offensive, ce qui va le mener à être arrêté par la police portugaise et à devoir rester pendant 13 ans en prison.
En novembre 1999, dernier acte de la présence portugaise, se tient le procès de Dan Cassé. Il nie tout. La 14K, je ne les connais pas, dit-il.
Il n'y avait aucune preuve qu'il ait commis un crime, ou du moins un crime grave. Il y avait bien le blanchiment d'argent, mais ce n'est pas très grave.
Les juges présentent son film comme une preuve de son appartenance à une triade. Ce n'est que du cinéma, répond-il.
Ok, j'ai une question. Mmh. Est-ce qu'il y a un lien entre le gouvernement de Pékin et les triades? Car pour l'instant, il ne me semble pas être allié plus que ça.
Bon, en fait, Mao Tse-tung, en 1949, était contre à l'époque des triades. Mais lorsqu'il a vu le capital que les activités souterraines ramenaient, il a accepté de faire alliance.
Ah, avidité.
Ouais. On l'a surtout remarqué en 1997, quand le premier ministre de l'Intérieur a été arrêté pour avoir investi dans des parts d'une boîte dirigée par Dan Cassé, donc le chef de la 14K. Mmh. Il faut savoir que les activités internationalisées contribuaient à la croissance chinoise et au placement de bourse. Par exemple, Lou Blanc, donc le chef de Bambou Uni actuellement, était actionnaire à 25%. Mais selon Fleuve Tranquille, c'est vite arrêté lorsque Xi Jinping, l'actuel président chinois, est arrivé au pouvoir. Il a mis en place une opération anti-mafieuse totale, ce qui a débouché sur 51 000 arrestations. En revanche, il faut préciser que ce ne sont que des opposants ou des petits exécutants qui sont touchés. Parce qu'en vérité, il faut rappeler qu'en 2012 à Hong Kong, la triade Wo Xing-Wo, une triade hongkongaise dont tu nous as parlé, accompagnée d'un député anti-démocrate et pro-Pékin, influence les invités à voter pour Xi Jinping en échange d'argent et de cadeaux. En plus d'une alliance avec la triade de Hong Kong, le Parti communiste chinois, donc le PCC, est en lien avec Bambou Uni. Donc comme je te l'ai dit, on peut le voir à travers l'événement de 2017 où le chef du mouvement démocratique de Hong Kong se fait agresser deux fois sous ordre de Lou Blanc pour avoir rencontré un député taïwanais qui est alors démocratique. Le risque était qu'il lui soumette des idées pour instaurer la démocratie à son tour dans Hong Kong. Dans un autre cas, en 2019, il y a eu des manifestations contre une loi de Pékin qui devait être soumise à Hong Kong. Ce qui s'est passé, c'est qu'étant donné que la police a été submergée par la foule, les triades ont attaqué la population et même simplement des passagers.
Ok, je te coupe deux secondes. C'est vrai que je veux raconter aussi ce que j'ai vu dans le documentaire. En fait, quand j'ai vu ça, j'y croyais pas parce que pour moi, elles ne sont pas si secrètes que ça si elles dévoilent leurs histoires et leurs activités. Parce qu'en fait, elles font intervenir des médias et du coup, bah, c'est plus facile pour la police de trouver des preuves contre eux, non ?
Oui, je vois. Mais en fait, à la fin, on voit clairement qu'ils n'ont rien à craindre car toutes les activités criminelles citées sont du passé et donc ne sont pas jugeables ou il n'y a pas assez de preuves pour démanteler tout un réseau criminel et de l'ordre mafieux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on sait à peu près où en sont les triades. Par exemple, Dan Cassé a inauguré en 2020 aux Philippines la crypto-monnaie. Il vend sa protection au PCC selon le tracé des nouvelles routes de la soie jusqu'au Kazakhstan. Et il souhaite unir les triades, les Hongmen, ainsi que le PCC de Pékin pour contrer les États-Unis. Parce qu'il faut rappeler que la Chine et les États-Unis sont ennemis, quoi. Et donc son but est de remplir le rêve chinois, c'est-à-dire faire de la Chine la nouvelle hyperpuissance. Et du côté de Lou Blanc, il est surveillé pour faciliter l'entrée des Chinois à Taïwan. Et c'est un problème majeur car si les mafieux pourraient infiltrer l'armée taïwanaise, ils pourraient alors transmettre des informations à la République populaire de Chine. Et en ce qui concerne l'Europe, c'est difficile de démanteler les triades car elles sont peu connues. Mais il y a en Italie un chef d'une triade de Hong Kong qui a été repéré lorsqu'il a essayé de lier les triades chinoises à l'Europe. Il gérait le transport routier des importations chinoises au point d'arrivée des nouvelles routes de la soie qui relient la Chine et l'Europe.
Ok, bah, c'était cool en vrai de nous avoir dit toutes ces informations. Moi, du coup, je vais vous faire une découverte du jour. Je vais vous recommander du coup le documentaire sur Arte qui retrace bien plus précisément l'histoire des triades. Si notre intervention a pu piquer votre curiosité, n'hésitez pas à le regarder. Le documentaire se décompose de 3 épisodes d'environ 1 heure. Bon, c'est un petit peu long, mais ça vaut le coup de jeter un œil. Vous pouvez aussi le retrouver sur YouTube.
Merci Charline et à vous de nous avoir écoutés. On se donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode sur la Corée du Sud. Vous pouvez bien évidemment retrouver tous nos épisodes en podcast sur le site bacfm.fr et je vous souhaite de passer une bonne fin de journée.
Merci, au revoir. Thank you.